France Inter.
Bonsoir Céline Asselot.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, comment faire face au coût du changement climatique?
Oui, comment continuer à assurer les Français face au risque accru d'inondations, d'érosion, de cyclones qui pourraient coûter des milliards dans les prochaines années? Un rapport remis ce soir au gouvernement propose des solutions à cette question plus que jamais d'actualité au moment où plusieurs villages de Lyon ont les pieds dans l'eau. Précision et témoignage au début de ce journal.
Et les autres titres, Céline?
Un enfant de 12 ans qui ouvre le feu dans une école, ça s'est passé ce matin en fin Finlande, suscitant une vague d'émotions dans ce pays particulièrement touché par les fusillades. On verra ça dans un instant. Israël condamné de toutes parts au lendemain de la frappe qui a tué 7 humanitaires à Gaza. On entendra la réaction du Premier ministre Benjamin Netanyahou. On ira aussi au Havre où s'est ouvert le procès du naufrage du chalutier Brest. 3 victimes et beaucoup de questions. À Londres également, où le British Museum est accusé de cacher des reliques sacrées ramenées d'Éthiopie. Et bien on va revenir sur l'appel de l'ancien international Raphaël Varane à mieux prendre en considération les risques de commotion cérébrale dans le football.
On en parle aussi avec le neurologue Jean-François Sherman, c'est l'invité de ce journal. Au sommaire du 18-20 ce soir, nous allons d'abord en RDC, au milieu de ce conflit presque oublié dans la province du Nord Kivu, qui a déplacé déjà plus d'1,5 million de personnes, une guerre des ressources, une guerre ethnique. Vous entendrez le président de RDC, Félix Tshisekedi, que Claude Guibal a pu rencontrer. Nous sommes au Canada, où on essaye d'anticiper sur la saison des feux de forêt. L'an dernier avait été désastreux. Avec vous, Céline Asselot, on verra que les Japonais risquent de s'appeler tous pareils dans 500 ans et ça fait peur. Franck Madvon regarde vers l'Iran, il s'inquiète. Caroline, au pays des 27, Caroline Gillet nous emmène à l'école d'économie de Paris. Et oui, c'est un rapport avec l'Europe, vous verrez. Et puis au téléphone sonne, c'est en deuxième heure. L'Allemagne l'a fait. Et nous alors, la légalisation ou dépénalisation du cannabis. Pourquoi ça coince chez nous? Faites tourner le numéro de téléphone 01 45 24 7000.
France Inter.
Le trait de côte qui recule, les maisons qui se fissurent.
Les inondations qui se multiplient. Après le Pas-de-Calais, c'est Lyon qui se débat avec les crues. On se rendra sur place dans un instant. Tous ces phénomènes sont en partie causés par le changement climatique. Chaque fois, il faut reloger, réparer, indemniser. Et ça coûte de plus en plus cher aux assurances. Jusqu'à 70 milliards d'euros de surcoûts dans les 30 prochaines années. Et c'est tout un équilibre qui est menacé. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
C'est pourquoi le gouvernement avait commandé un rapport sur le sujet qui lui a été remis ce soir. Il veut trouver des solutions pour que le système tienne, pour que les assurances ne désertent pas les zones à risque.
Oui, parce qu'aujourd'hui, ce régime des catastrophes naturelles, dit CatNat, est déficitaire. Il perd 1,3 milliard par an depuis 2016. Alors pour Thierry Langrenet, ancien assureur, co-auteur de ce rapport, il faut absolument le sauver.
Nous avons un privilège, c'est celui de la solidarité entre les territoires. Que l'on soit pas exposé ou très exposé, le niveau de surprime en pourcentage est le même. C'est ce qu'on ne voit pas dans certains pays qui laissent l'assurance fonctionner de manière complètement libérale et qui du coup amène à des prix prohibitifs pour les particuliers ou les entreprises.
Alors le gouvernement a pris les devants. Le taux de la prime catastrophe naturelle va augmenter de 12 à 20% l'an prochain, mais le risque c'est que les assureurs désertent les zones trop dangereuses, pas assez rentables, alerte Gonéry Le Cozanet, l'autre co-auteur de ce rapport, ingénieur au BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière.
Pour des assureurs, si certaines zones en fait sont trop à risque, elles deviennent moins attractives et il y a une tentation de s'en aller. Tous les assureurs s'en vont de cette zone et vous avez un risque de non-assurance. Pour contrer cette tentation, ce que nous proposons, c'est une sorte de bonus-malus. Donc les assureurs qui assurent beaucoup dans des zones à fort risque seraient moins taxés que ceux qui assurent dans des zones à faible risque.
Le rapport veut aussi responsabiliser les assurés. Pour les propriétaires de résidences secondaires, par exemple, il préconise de conditionner le coût de l'assurance à la réalisation de travaux d'adaptation au risque climatique.
Merci Rémi Brancato, service sciences, santé et environnement de France Inter. Et justement, venons-en aux inondations. Plusieurs villages recouverts d'eau ce soir dans Lyon. Le département est toujours, comme la Saône-et-Loire, en vigilance rouge en raison des crues. Les niveaux de l'Armançon et du Serein ne cessent d'augmenter au fil des heures. Le pic est attendu dans la soirée, notamment à Chablis. Vous vous trouvez, Ajra Mohamed, bonsoir.
Bonsoir Céline.
Chablis, c'est un mot qui évoque le vin, évidemment. La montée des eaux suscite beaucoup d'inquiétudes chez les vignerons. L'un d'eux vous a d'ailleurs accueilli sur son domaine.
Oui, le domaine de Thomas Labille se situe au bord du Serein, cette rivière sortie de son lit cet après-midi et qui inonde depuis les terres du viticulteur, impuissant face à la situation.
On est vraiment en train de déborder, comme vous pouvez le voir, on commence à avoir plusieurs centimètres d'eau au sol et on voit que tout est brassé, tout est emmené avec de la puissance. Vous allez voir, ça va monter à une vitesse fait même pas 10 minutes qu'on parle et comme vous pouvez le voir, il y a déjà plus de 10 cm qui est en train de s'installer. C'est impressionnant.
Et effectivement, l'eau monte rapidement et nous encercle. Il faut partir vite.
Comment on fait là pour traverser? Parce que il y a de l'eau, donc on est
alors
un peu coincé là.
Le seul moyen qu'on va avoir, ça va être de passer en tracteur. Et sinon, plus tard, ça sera carrément de ne pas bouger pour éviter de prendre des risques.
Alors on grimpe dans le tracteur et on s'éloigne, laissant derrière nous 35 hectares de vignes plantées sur les coteaux, en hauteur, à l'abri, certes, mais il y a tout le reste à sauver.
On a protégé tout notre stock, toutes les matières qui peuvent être abîmées, comme le bois, les cartons, les bouchons, le verre. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas tout protéger. Et du coup, comme par exemple, on a les fûts qui sont là, qui sont pleins, et on ne peut rien faire, à part espérer que ça n'impacte pas trop et nettoyer le plus vite possible.
Un nettoyage qui prendra du temps. Le viticulteur va donc mettre une partie de ses employés au chômage technique, comme en 2013, lors des dernières grandes inondations qu'il avait déjà touchées. Celles d'aujourd'hui, dit-il, sont bien plus intenses.
Jérôme Mohamed en direct de Chablis avec Éric Audra pour les moyens techniques.
L'Ukraine et le Proche-Orient au menu des discussions ce soir à l'Élysée.
Oui, Emmanuel Macron reçoit le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui n'était pas venu en France depuis plus de 2 ans. Le secrétaire d'État américain qui réclame une enquête rapide et impartiale au lendemain de la mort de 7 humanitaires dans une frappe israélienne à Gaza. Face aux condamnations qui viennent du monde entier, Étienne Monin, l'armée israélienne annonce l'ouverture d'une enquête et reconnaît aussi sa responsabilité.
Dans les étages du gigantesque hôpital Hadassah à Jérusalem, Benyamin Netanyahou, qui sort d'une opération pour une hernie, reconnaît la responsabilité de l'armée israélienne, mais pas l'intentionnalité.
Il y a eu un incident tragique, une frappe involontaire de nos forces contre des personnes innocentes dans la bande de Gaza. Cela se produit en temps de guerre. Nous vérifions ceci de manière approfondie. Nous sommes en contact avec les différents gouvernements. Nous ferons tout notre possible pour que cela ne se reproduise.
Des employés palestiniens de l'ONU, de Médecins du Monde ou de Médecins sans frontières ont déjà été touchés depuis le début de la guerre. Mais c'est la première fois que des internationaux sont tués. Il y a un effet de choc. La France a fermement condamné. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken demande une enquête impartiale. Cette tragédie arrive au moment où la guerre semble s'enliser dans Gaza. Depuis des mois, les ONG dénoncent les entraves qui sont imposées par l'armée israélienne. Le Nord est maintenant menacé par la famine. World Central Kitchen suspend ses opérations alors qu'elle était un opérateur majeur pour la distribution de nourriture.
Précision signée Étienne Monin pour France Inter. Sur l'autre front, celui qui oppose la Russie à l'Ukraine, Volodymyr Zelensky abaisse l'âge de la mobilisation de 27 à 25 ans. C'est une problématique essentielle pour le président ukrainien qui annonçait en décembre vouloir enrôler 500 000 soldats supplémentaires. Ce projet de loi voté il y a un an entre en vigueur demain en Ukraine. En Finlande, au-delà du bilan de la fusillade survenue ce matin, c'est l'âge du suspect qui crée l'effroi. Un garçon de 12 ans a ouvert le feu dans une école dans la banlieue d'Helsinki, de la capitale finlandaise, dont je retrouverai la prononciation. Bravo Fabienne, merci de m'avoir aidé. Il a tué un enfant du même âge que lui. 2 autres écoliers sont grièvement blessés. Eric Biegala, le tireur présumé, a été arrêté par la police quelques dizaines de minutes après la fusillade.
À l'occasion d'une conférence de presse tenue à la mi-journée tout à l'heure, la police finlandaise a détaillé avoir été prévenue de l'attaque sur cette école de Vantaa, au nord-est d'Helsinki, par téléphone à 9h08 ce matin. À leur arrivée sur les lieux 10 minutes plus tard, les policiers ont pu constater le décès d'un enfant de 12 ans, alors que 2 autres jeunes étaient grièvement blessés. Un 4e enfant, un camarade de classe des 3 victimes, régulièrement inscrit en classe de 6e de cet établissement, était en fuite, armé. Il sera arrêté quelques dizaines de minutes plus tard, toujours en possession d'une arme de poing. Selon la police, le jeune de 12 ans également a reconnu, devant les policiers qui l'appréhendaient, être l'auteur des coups de feu, précisant que l'arme utilisée appartenait à l'un de ses proches parents. Les policiers, à la mi-journée, n'étaient pas en mesure de dire si ces tirs avaient visé les 3 victimes en particulier ou s'il s'agissait de tirs au hasard dans la cour de l'école. S'agissant d'un mineur de moins de 15 ans, non pénalement responsable en Finlande, le tireur devait être interrogé plus avant par la police cet après-midi, avant d'être confié aux services sociaux.
Éric Biegala de la rédaction internationale de France Inter. Aux États-Unis, le droit à l'avortement au cœur de la campagne présidentielle. Joe Biden appelle les électeurs de Floride à se mobiliser au mois de novembre, au lendemain d'une décision qui qualifie d'extrême et de scandaleuse. La Cour suprême de l'État de Floride vient d'autoriser une loi interdisant l'avortement au-delà de 6 semaines de grossesse.
Les 3 marins à bord du chalutier Braise auraient-ils pu être sauvés?
C'est la question qui se pose depuis ce matin au tribunal du Havre qui se penche sur le naufrage de ce bateau bateau de pêche. C'était en 2021 au large du Calvados. Le patron et ses deux matelots étaient partis pêcher la coquille Saint-Jacques lorsqu'ils ont subi une avarie technique. Un canot de la SNCM est venu leur porter secours, mais le chalutier a fait naufrage pendant l'opération de sauvetage. Les trois hommes sont morts noyés. Aujourd'hui, 5 personnes comparaissent pour homicide involontaire, dont un sauveteur en mer. Nolwenn Lejeune, vous avez suivi cette première journée d'audience, marquée par le rapport accablant qu'est venu faire à la barre le major de la gendarmerie maritime de Ouistreham.
Il y avait le bateau déjà, le Braise, un chalutier de 11 mètres construit en 1979, acheté en 2020 par un jeune pêcheur de Saint-Vallaougue. L'expert maritime note un problème de surenfoncement dans l'eau et préconise de l'alléger, mais son permis de naviguer est prorogé. On a appris à l'audience d'ailleurs qu'une enquête est en cours sur ce point précis auprès du parquet militaire de Rennes. L'équipage ensuite, le patron n'a pas les diplômes et un seul de ses deux matelots est qualifié, mais la direction des territoires et de la mer l'enregistre malgré tout parce qu'on n'était pas chargé de faire ses contrôles, se justifient les deux fonctionnaires. Alors où sont les vrais responsables, s'emporte l'avocate de l'un d'eux. Il y a enfin le drame en lui-même, une opération ponctuée d'incidents, dit le rapport d'enquête. Un temps trop court de 3 minutes 17 pour mettre en place le remorquage. Une vitesse trop importante pour remorquer le chalutier qui était trop lourd. Le passage par la zone dangereuse des Essarts au large de Langrune où il y a des courants et des remous. Et l'équipage de la SNSM, dont plusieurs bénévoles étaient malades ou dormaient. Et rien de tout cela, s'étonne le major de la gendarmerie, ne figure dans le journal de bord du capitaine. Son audition promet d'être le temps fort de cette audience.
Merci d'audience. Signé Nolwenn Lejeune. Voilà des mois que son cas déchire. Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, l'ancien secrétaire national, a annoncé démissionner de son parti et de son groupe parlementaire. Il était en retrait depuis une plainte déposée début mars par son ex-compagne pour harcèlement moral et abus de faiblesse. Précision et réaction dans le prochain journal à 19h. Qui pourra voter aux élections provinciales de Nouvelle-Calédonie? Les sénateurs se sont penchés aujourd'hui sur cette question épineuse qui suscite bien des tensions entre loyalistes et indépendantiste. Le Sénat vient d'approuver une révision constitutionnelle pour élargir le corps électoral de Nouvelle-Calédonie qui était gelé depuis les accords de Nouméa de 1998. Le texte a été largement adopté, Laurence Perron, mais tout n'est pas réglé pour autant.
Sur le fond, peu conteste qu'il n'est pas tenable d'empêcher 42 000 personnes de voter. C'est ce que représente ce gel du corps électoral. À commencer par la droite sénatoriale, Jean-Noël Buffet.
En 1998, 7% simplement des gens étaient mis de côté, ne pouvaient pas voter. Aujourd'hui, c'est 20%. Et la règle veut qu'il faut dégeler le corps électoral. Le gouvernement fait un choix en disant au Parlement « Nous reporterons ces élections au plus tard le 15 décembre prochain ». Le texte a été voté.
Mais la méthode du gouvernement a heurté les indépendantistes qui continuent de considérer que le dernier référendum d'autodétermination qui s'est tenu en plein Covid et qu'ils ont boycotté n'est pas valide. Robert Rowy, sénateur indépendantiste de Nouvelle-Calédonie.
L'État a décidé unilatéralement d'ouvrir le corps électoral. Le terreau sur lequel on moissonne est vaseux. Les équilibres sont fragilisés et les signaux sociétaux s'allument en orange. Mes chers collègues, ne faisons pas de ce texte le déclencheur d'une crise que personne ne pourra maîtriser.
Le gouvernement n'est pas très à l'aise non plus. La droite lui a imposé son tempo et sa méthode. Il faudra ou réussir la médiation en Nouvelle-Calédonie ou passer par une révision constitutionnelle pour que les élections puissent effectivement se tenir avant fin 2024.
Laurence Perron, service politique de France Inter.
Il réclame une meilleure prise en charge des commotions cérébrales dans le football.
Oui, parce qu'il en a été victime à plusieurs reprises depuis le début de sa carrière. Raphaël Varane lance un appel aujourd'hui dans le journal L'Équipe. Le défenseur de Manchester United et ancien international français rappelle que les commotions à répétition ont potentiellement un effet mortel, mais que les joueurs ont du mal à en parler. On est dans un milieu très concurrentiel, dit-il, dans lequel ne pas jouer à cause d'une petite douleur peut mal passer.
Bonsoir Jean-François Sherman.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes neurologue spécialiste des commotions. Le témoignage de Raphaël Varane quand même dit que les joueurs sont en train de comprendre qu'il y a danger. Est-ce que c'est pas déjà là un gros progrès?
Ah, c'est un énorme progrès, mais j'ai lu l'article de Raphaël Varane et je trouve ça intéressant parce que ça me fait vraiment penser aux articles qui parlaient du rugby, enfin je pensais à Raphaël Ibanez ou des garçons comme ça qui justement sont presque à la retraite ou en tout cas en tête de l'équipe de France et qui commencent à en parler et qui expliquent bien que quand ils ont été victimes de commotion, ils préféraient ne pas en parler, ils préféraient prendre sur eux parce qu'en fait dans ces sports-là, on a envie de jouer.
Ce qu'il dit, Varane, notamment, dit qu'il a joué en pilote automatique après un ballon sur la tempe. Qu'est-ce que ça veut dire médicalement en pilote automatique et à plus long terme surtout?
Alors c'est assez classique, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'automate. Et ça, c'est vraiment l'une des manières qu'a la commotion de se traduire. C'est des troubles de la mémoire et on joue un peu en syndrome de l'automate. C'est-à-dire qu'on continue à jouer, on sait qu'on joue au foot, mais on ne sait pas exactement contre qui. Et donc évidemment, on ne va pas prendre les bonnes décisions, on ne va pas être bon sur le plan de la performance. Mais surtout, on peut se blesser, on peut reprendre un nouveau coup à la tête et donc avoir des syndromes commotionnels qui vont être beaucoup plus importants. On risque de se faire un croisé ou une autre blessure qui va faire que l'athlète va être arrêté bien plus longtemps. Donc c'est ça la vraie problématique.
Jean-François Sherman, la première chose à laquelle on pense au foot, c'est la tête, en fait. C'est la tête sur le ballon, un ballon en pleine vitesse, un coup super puissant. Est-ce que ça, c'est à chaque fois une commotion potentielle ?
Non, pas du tout. En fait, la vraie problématique dans les commotions, c'est surtout c'est tête contre tête. Vraiment, c'est l'une des actions les plus importantes pour avoir les plus fréquentes dans les. Il y a le gardien qui peut être exposé aussi, mais la problématique actuelle qui est vraiment déterminante, c'est plutôt les subcommotions. De plus en plus, on est en train de parler des subcommotions. Et ce qui est très intéressant, c'est que le football est extrêmement novateur là-dessus. C'est que le football, il y a eu 3 études fondamentales qui ont été publiées ces derniers temps. L'une en Écosse, l'une en France et l'une maintenant en Suède sur l'avenir justement des joueurs professionnels de football. Et on s'est rendu compte que pratiquer le football, ça aide contre plein de pathologies. Moins de cancer, moins de pathologies cardiovasculaires, moins de diabète, mais augmentation des maladies neurodégénératives. Augmentation par 3 ou 4 du risque d'Alzheimer, par exemple, que ce soit chez les Écossais, chez les Français. Ah oui. Et oui, et par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, et ça c'est l'étude suédoise récente, qui montre que les gardiens sont protégés. Et ça, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est peut-être que c'est pas les commotions, peut-être que ce sont les subcommotions, c'est micro-traumatisme.
Exactement, donc l'idée, est-ce que je vous ai bien compris, Jean-François Sherman, ça veut dire qu'une multitude de petites commotions est au fond bien plus grave que si on se prend une fois ou deux fois dans sa carrière un grand coup.
Exactement. On a minimisé les commotions dans le football parce que c'est vrai que les commotions c'est moins important que dans le rugby, mais quand même ça existe. Mais par contre, ce qui existe dans le football, c'est un joueur de football professionnel, il fait 10 à 15 000 têtes dans une carrière. Donc maintenant, ce qu'il faut revoir, c'est est-ce que les enfants justement ne devraient pas être exempts des têtes jusqu'à un certain âge, ou en tout cas faire des têtes à l'entraînement avec des ballons en mousse et jouer en match en faisant des têtes, ça c'est une chose, parce que c'est vrai que les têtes sont vraiment inhérentes au football, c'est pas possible de les empêcher. Mais...
Une dernière chose, Jean-François Sherman, dans le rugby, après un coup on s'arrête pendant 12 minutes, on a le temps de se poser un petit peu, au foot ça existe pendant 3 minutes et encore, est-ce que on se dit le foot a tout intérêt à s'aligner sur le rugby, c'est aussi simple que ça?
Oui, mais en fait, step by step, faut savoir que dans le football, il n'y avait rien qui avait été fait il y a quelques années, dans le rugby c'était pareil, on a mis en place un protocole justement HIA et surtout une obligation des joueurs d'être vus par un neurologue à 48 heures, ben dans le football c'est le cas aussi maintenant, donc on a mis en place une carte géographique sur laquelle tous les joueurs doivent être vus par un neurologue ou un neurochirurgien en France quand ils jouent en Ligue 1 ou en Ligue 2. Maintenant, c'est vrai que le protocole... Il y a plein de choses qui sont différentes dans le football. Dans le rugby, vous voyez des gens qui rentrent sur le terrain. Dans le football, on n'a pas le droit d'entrer sur le terrain comme ça. Il y a plein de choses à changer, c'est vrai. Mais il y a déjà des choses qu'ils ont faites.
Et ça commence maintenant, vous avez entendu Jean-François Sherman, vous êtes neurologue spécialiste des commotions, invité de ce journal, merci beaucoup. Et puis on prend maintenant la direction de Londres avec cette question qui embarrasse le British Museum. Le célèbre musée cache-t-il des informations sur des reliques volées à l'Éthiopie? Une enquête administrative a été lancée concernant des tablettes sacrées pour les chrétiens orthodoxes. Richard Place, vous êtes à Londres.
Le tabou est un objet sacré. Pour l'église orthodoxe en Éthiopie, il incarne la présence de Dieu, tellement sacré qu'il doit être recouvert de tissu, seuls les prêtres peuvent le voir. À la fin du 19e siècle, des soldats britanniques en volent 11. Ils finissent au British Museum où ils n'ont jamais été exposés. Respectant les consignes de l'église, le musée les conserve dans un endroit où personne ne peut les voir, pas même le personnel ou des chercheurs. Dans ces conditions, pourquoi ne pas les restituer? C'est la question que posent des militants. Ils n'obtiennent aucune réponse, alors ils se tournent vers un organisme administratif, le commissariat à l'information. Ils ne manqueront à personne, puisque personne n'est jamais autorisé à les voir, s'indignent les plaignants. Le prestigieux musée traverse une période compliquée après le vol avéré et la revente d'œuvres dont il avait pourtant la charge, un scandale qui a coûté sa place au directeur, et de nombreux pays qui réclament régulièrement le retour de reliques. Le Chili, la Grèce, le Bénin, entre autres, estiment avoir été volés et veulent récupérer des vestiges ou des objets. Londres, Richard Place, France Inter.
Et le British Museum qui refuse de communiquer sur ce nouveau sujet embarrassant. Céline Naslow pour le journal, merci. À tout de suite Céline, dans Un jour dans le monde, vous passerez sous les radars où l'actualité internationale va parfois se nicher. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Élodie Calac, bonsoir. Encore 5 départements sous surveillance pour les crues.
Oui, les crues se poursuivent. Grande prudence sur Lyon et la Saône-et-Loire. La vigilance reste rouge, orange pour l'Aube, la Côte d'Or et la Haute-Marne. Ce soir et cette nuit, la perturbation pluvieuse qui arrive par l'ouest va traverser le pays avec du vent. Elle s'attardera des Hauts-de-France aux régions de l'Est demain matin, mais elle aura quitté le pays demain en milieu de journée.
Et ce sera plus changeant après les pluies.
Oui, des nuages, des averses, parfois un coup de tonnerre sur le nord-est l'après-midi, mais ça n'empêchera pas des éclaircies. Alors, elles seront encore timides le matin, mais elles s'élargiront l'après-midi, sauf sur la Bretagne, puisqu'une nouvelle perturbation apportera un ciel sombre et de la pluie. De l'Aquitaine vers la Méditerranée, ce sera plus sec quand même demain avec de belles éclaircies. Et puis, il fera doux le matin, 6 à 11 degrés le plus souvent. L'après-midi, 13 à 15 degrés attendus près de la Manche, 15 à 17 sur les autres régions du nord, au sud, 18 à 21 degrés et même jusqu'à 23 près des Pyrénées.